Deuxième chapitre. Le citoyen Pérol demeura à l'entrée de la cour d'auberge jusqu'à ce que la nuit eût noyé le moindre détail de ce paysage sur lequel ses regards étaient restés fixés aussi longtemps que les dernières lueurs du jour. Et même après que les dernières lueurs se furent éteintes, il était encore demeuré là un moment à fouiller des yeux les ténèbres au milieu desquels il ne pouvait discerner que la route blanche à ses pieds et le sombre sommet des pins à l'endroit où le chemin charretier dévalait vers la côte. Il ne rentra dans l'auberge qu'après le départ de voituriers qui étaient venus boire un coup et qui s'en allèrent dans la direction de Fréjus avec leurs grosses charrettes à deux roues chargées d'un empilement de tonneaux vides. Pérol n'avait pas été fâché de voir qu'il ne restait pas pour la nuit. Il fit un rapide souper tout seul, en silence, et avec une gravité qui intimida la vieille femme dont l'aspect lui avait rappelé sa mère. Après avoir fumé sa pipe et obtenu un bout de bougie dans un chandelier d'étain, le citoyen Pérol monta pesamment au premier étage pour aller retrouver son bagage. L'escalier branlant tremblait et gémissait sous son pas comme si le voyageur eût porté un fardeau. La première chose qu'il fit fut de fermer les volets très soigneusement, comme s'il avait eu peur de laisser entrer un souffle d'air nocturne. Ensuite, il tira le verrou de sa porte, puis s'étant assis sur le plancher et ayant posé le chandelier devant lui entre ses jambes très écartées, il commença à se dévêtir, rejeta sa veste et fit en hâte passer sa chemise par-dessus sa tête. La raison secrète de ses mouvements pesants se révéla alors dans le fait qu'il portait contre sa peau nue, tel un pieux pénitent sa chair, une sorte de gilet fait de deux épaisseurs de vieille toile à voile, tout piqué à la manière d'un couvre-pied, avec du fil goudronné. Trois boutons de corne le fermaient par devant. Il les défit, et après qu'il eut fait glisser les deux épaulettes qui empêchaient cet étrange vêtement de lui tomber sur les hanches, il se mit à le rouler. Malgré tout le soin qu'il y apporta, il se produisit pendant cette opération quelque tintement d'un métal qui ne pouvait pas être du plomb. Le torse nu, rejeté en arrière, arc-bouté sur deux gros bras rigides à la peau blanche, abondamment tatoué au-dessus du coude, Pérol aspira une longue goulée d'air dans sa large poitrine, dont le centre était couvert d'une toison grisonnante. Non seulement la poitrine du citoyen Pérol libéré retrouva toute son athlétique capacité, mais un changement était également survenu sur ses traits, dont l'expression d'austère impassibilité n'avait été que la conséquence d'un malaise physique. Ce n'est pas une bagatelle que de porter, ceinturant les côtes et accroché aux épaules, un massif assortiment de monnaies étrangères valant quelque 60 000 ou 70 000 francs en liquide. Quant au papier-monnaie de la République, Pérol en avait eu déjà une expérience suffisante pour en évaluer l'équivalent en tombereaux, de quoi en remplir 1 000 ou 2 000 peut-être. Suffisamment en tout cas pour justifier le trait d'imagination qui lui était venu en contemplant le paysage à la lumière du couchant. Avec ce qu'il avait sur lui, il pourrait acheter tout ce pays qu'il avait vu naître, maison, bois, vignes, oliviers, jardins, rochers et salines. Bref, tout le paysage, y compris les animaux. Mais Pérol ne portait pas le moindre intérêt à la propriété foncière. Il n'avait aucune envie de posséder un lopin de cette terre ferme pour laquelle il n'avait jamais eu le moindre attachement. Tout ce qu'il voulait en obtenir, c'était un coin tranquille, un endroit écarté où, à l'insu de tous, il put à loisir creuser un trou. Il n'allait pas falloir tarder à le faire, pensa-t-il. On ne peut pas vivre indéfiniment avec un trésor attaché autour de la poitrine. En attendant, parfait étranger dans son pays natal, où son débarquement était peut-être la plus considérable aventure de son aventureuse existence, il jeta sa veste sur le gilet roulé et y posa la tête après avoir soufflé la bougie. La nuit était chaude, il se trouvait que le plancher était en bois et non carrelé. Cette sorte de lit n'était pas une nouveauté pour lui. Son gourdin à portée de la main, Pérol dormit profondément jusqu'à ce que des bruits et des voix dans la maison et sur la route vinssent le réveiller peu après le lever du soleil. Il ouvrit le volet, accueillant la lumière et la brise du matin avec cette satisfaction de n'avoir rien à faire qui, pour un marin de son genre, est inséparable du fait d'être à terre. Il n'y avait rien qui pût troubler ses pensées, et quoique sa physionomie fût loin d'être dénuée d'expression, elle n'offrait pas l'apparence d'une profonde méditation. C'avait été par le plus grand des hasards qu'au cours de la traversée, il avait découvert dans un recoin secret d'un des coffres de sa prise deux sacs de pièces de monnaie assorties. Mohure d'or, le mohure était une monnaie d'or de l'Inde britannique, valant 15 roupies. La pièce ou pièce de 8 espagnole valait 8 réals. Quant à la Guinée anglaise, créée en 1684, elle a valu entre 30 et 21 shillings et a cessé depuis 1817 d'être représentée par une pièce de monnaie. Ducats hollandais, piécettes espagnoles, guinées anglaises. Une fois cette découverte faite, aucun doute n'était venu le tourmenter. Le butin, grand ou petit, était un fait naturel de sa vie de flibustier. Et maintenant que par la force des choses, il était devenu maître canonnier dans la marine, il n'allait pas abandonner sa trouvaille à de fichus terriens, de simples requins, des gratte-papiers voraces, qui la fourreraient dans leurs poches. Quant à annoncer la nouvelle à son équipage, entièrement composé de mauvais sujets, il n'était pas assez bête pour rien faire de pareil. Il n'aurait pas été incapable de lui couper la gorge. Un vieux combattant de la mer comme lui, un frère de la côte, avait plus de droit à un pareil butin que n'importe qui au monde. Aussi, à ses moments perdus en mer, s'était-il occupé dans la solitude de sa cabine à confectionner cet ingénieux gilet de toile pour pouvoir transporter son trésor à terre secrètement. Il était volumineux, mais ses vêtements étaient de large coupe, et nul minable douanier n'aurait le front de porter les mains sur un chef de prise victorieux se rendant au bureau du préfet maritime pour faire son rapport. Ce plan avait parfaitement réussi. Toutefois, il s'aperçut bientôt que ce vêtement insoupçonné et qui valait précisément son pesant d'or éprouvait son endurance plus qu'il ne l'avait prévu. Cela lui avait fatigué le corps et, en outre, l'avait quelque peu déprimé. Cela l'avait rendu moins actif et aussi moins communicatif. Sans cesse, cela lui avait rappelé qu'il ne lui fallait à aucun prix risquer le moindre ennui, qu'il lui fallait éviter toute bagarre, toute intimité, toute réjouissance en compagnie mêlée. C'était là une des raisons qui l'avait rendu impatient de quitter la ville. Cependant, une fois la tête posée sur son trésor, il pouvait dormir du sommeil du juste. Au matin, pourtant, il renonça à remettre le gilet sur lui. Avec un mélange de l'insouciance particulière au marin et de sa vieille foi en sa chance, il se contenta d'enfoncer le précieux gilet dans le conduit de la cheminée vide, puis il s'habilla et déjeuna. Une heure après, monté sur une mule de louage, il descendait le chemin aussi paisible que s'il se fût agi pour lui d'explorer les mystères d'une île déserte. Il se proposait d'atteindre l'extrémité de la presqu'île qui, avançant dans la mer comme une jetée colossale, sépare la pittoresque rade d'Hyères des caps et des anses de la côte qui forment les approches du port de Toulon. Le chemin sur lequel le pas assuré de la mule le menait, car Pérolle, après lui avoir tourné la tête dans la bonne direction, ne s'était plus soucié de la diriger, descendait rapidement vers une plaine à l'aspect aride où scintillaient de loin les reflets des salines, les salines qui longent l'ouest de la presqu'île de Gien, salins des Pesquiers, sont parmi les plus étendues de la région, et que bornaient des collines bleuâtres de faible hauteur. Toute trace d'habitation humaine avait bientôt disparu à son regard vagabond. Cette partie de son pays natal lui était plus étrangère que les rivages du détroit de Mozambique, les récifs de corail de l'Inde ou les forêts de Madagascar. Il lui fallut peu de temps pour atteindre la partie resserrée de la presqu'île de Gien, tout imprégné de sel et où se voyait une lagune bleue, particulièrement bleue, plus foncée et plus calme encore que la surface de la mer, dont à droite et à gauche, elle n'était séparée que par d'étroites langues de terre qui, à certains endroits, n'avaient pas même 100 mètres de largeur. On ne distinguait plus le sentier où il n'y avait plus trace d'ornière. Par moments, des plaques de sel efflorescent d'une blancheur de neige brillait entre des touffes d'herbes raides et des buissons paraissant particulièrement dépourvus de vitalité. Toute cette bande de terre était si basse qu'elle semblait n'avoir pas plus d'épaisseur qu'une feuille de papier posée sur la mer. Le citoyen Pérolle aperçut à hauteur des yeux, comme s'il les voyait d'un simple radeau, les voiles de divers bâtiments, blanches ou brunes, tandis que devant lui se dressait Porquerolles, son île natale, robuste et terne de l'autre côté d'un large ruban d'eau. La mule, qui savait plutôt mieux que Pérolle où elle allait, l'eut bientôt portée parmi les molles ondulations situées à l'extrémité de la presqu'île. Les pentes en étaient couvertes d'une herbe maigre, des murs de clôture en pierre sèche serpentaient à travers des champs et parfois se montrait au-dessus d'eux un toit bas de tuiles rouges qu'abritait la tête délicate de quelques acacias. À un tournant du ravin apparut un village formé de quelques maisons qui, pour la plupart, bordaient le chemin de murs sans fenêtres. D'abord, il n'y vit pas âme qui vive. 3 grands platanes à l'écorce très déguenillée et au feuillage très pauvre formaient un bouquet dans un endroit découvert, et Pérolle aperçut avec plaisir un chien qui dormait à leur ombre. Avec beaucoup de résolution, la mule se détourna vers une auge de pierre massive placée sous la fontaine du village. Tandis que la mule buvait, Pérolle, regardant du haut de sa selle autour de lui, n'aperçut aucun indice de l'existence d'une auberge. Puis, en examinant le sol plus près de lui, il remarqua, assis sur une pierre, un homme en haillons. Il portait une large ceinture de cuir et avait les jambes nues jusqu'aux genoux. Il regardait, figé de stupeur, cet inconnu monté sur la mule. Le teint bruni de son visage contrastait fortement avec sa tignasse grise. Sur un signe de Pérolle, il ne fit aucune difficulté pour s'approcher avec empressement, mais sans modifier la fixité de son regard. La pensée que s'il était resté au pays, il eût été probablement semblable à cet homme, traversa spontanément l'esprit de Pérolle. Avec cet air de gravité dont il se départait rarement, il lui demanda s'il y avait d'autres habitants que lui dans le village. Alors, à la surprise de Pérolle, cet oisif indigent esquissa un sourire aimable et lui répondit que les gens étaient sortis pour s'occuper de leurs lopins de terre. Pérolle était encore assez proche de ses origines paysannes pour répliquer que depuis des heures il n'avait aperçu ni homme, ni femme, ni enfant, ni quadrupède d'aucune sorte, et qu'il n'aurait pas cru qu'il pût y avoir la moindre terre méritant qu'on s'en occupât aux alentours. Mais l'autre insista. Ma foi, ils étaient tout de même sortis pour s'en occuper, du moins ceux qui en avaient. Au bruit des voix, le chien se leva, donnant l'étrange impression qu'il n'avait rien d'autre que l'échine. S'approchant avec une lugubre fidélité, il resta planté, le museau collé contre les mollets de son maître.
« Alors vous, dit Pérol, vous n'avez donc pas de terre ?»
L'homme prit son temps pour répondre. « J'ai un bateau. » L'intérêt de Pérol s'éveilla quand l'homme lui expliqua qu'il avait sa barque sur l'étang salé, cette grande nappe d'eau déserte et opaque qui s'étendait comme morte entre les deux grandes baies de la mer vivante. Pérol s'étonna à voix haute qu'on pût trouver bon d'avoir un bateau à cet endroit.
« Il y a du poisson là-bas, répondit l'homme.
« Et ce bateau est tout ce que vous possédez ici-bas ? » demanda Pérol.
Les mouches bourdonnaient, la mule baissait la tête, agitant les oreilles et secouant languissamment sa maigre queue.
« J'ai une sorte de cabane du côté de la lagune et quelques filets, » dit l'homme, passant pour ainsi dire aux aveux.
Pérol, abaissant le regard, compléta la liste en disant
« Et aussi ce chien !»
L'homme prit de nouveau son temps pour dire « Il me tient compagnie. » Pérol demeurait sérieux comme un juge.
« Vous n'avez pas grand-chose pour vivre, »
finit-il par énoncer.
« Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une auberge, un café ou un endroit quelconque où on peut descendre pour un jour ? J'ai entendu dire là-haut qu'on pouvait trouver ça par ici. »«
Je vais vous l'indiquer, » dit l'homme qui retourna alors à l'endroit où il s'était assis et ramassa un grand panier vide avant de montrer le chemin. Le chien le suivait, tête basse, la queue entre les jambes, et derrière venait Pérol, les jambes brinquebalant contre les flancs de l'intelligente mule qui semblait savoir d'avance tout ce qui allait arriver. Au tournant où finissaient les maisons, une vieille croix de bois était plantée dans un bloc de pierre carré. Le batelier solitaire de la lagune des Pesquiers, la lagune des Pesquiers comprend au sud des Salins un grand étang, montra du doigt à Pérol un chemin bifurquant vers l'endroit où les hauteurs qui terminaient la presqu'île s'affaissaient pour former un col peu élevé. Des pins inclinés marquaient la ligne de fête, et dans le creux lui-même on apercevait les taches couleur d'argent terne d'oliveraies au-dessous d'un long mur jaune derrière lequel apparaissaient de sombres cyprès et les toits rouges de bâtiments semblant appartenir à une ferme.
« Croyez-vous qu'on pourra me loger là ? » demanda Pérol.
« Je n'en sais rien. Ils ont de la place, ça, pour sûr. » Il ne passe jamais de voyageurs par ici. Mais pour ce qui est d'un lieu d'hébergement, c'en était un autrefois. Vous n'avez qu'à entrer. S'il n'y est pas, la maîtresse y sera à coup sûr pour vous servir. Elle est de la maison, elle y est née, on la connaît bien.
« Quelle sorte de femme est-ce ? »
demanda Pérol, très favorablement impressionné par l'aspect de l'endroit.
« Puisque vous y allez, vous le verrez bientôt. Elle est jeune. » « Et le mari ?»
demanda Pérol qui, baissant les yeux vers le regard fixe de l'autre qui levait les siens, avait surpris un léger clignement de ses yeux bruns un peu fanés.
« Qu'est-ce que vous avez à me dévisager comme cela ? Je n'ai pas la peau noire, je pense. »
L'autre se mit à sourire, montrant dans son épaisse barbe poivre et sel une rangée de dents aussi saine que celle du citoyen Pérol lui-même. Son attitude avait quelque chose d'embarrassé, sans être inamical, et à une phrase qu'il prononça, Pérol découvrit que l'homme qu'il avait devant lui, ce pauvre diable solitaire, hirsute, brûlé par le soleil, les jambes nues, planté près de son étrier, nourrissait des soupçons patriotiques sur la personne à qui il avait affaire. Cela lui parut scandaleux. Il lui demanda d'un ton sévère s'il ressemblait par hasard à l'un quelconque de ces sacrés terriens, et il se mit également à jurer sans rien perdre toutefois de la dignité d'expression inhérente à son genre de trait et au modelé même de sa chair.
« Sûr que vous ne ressemblez pas à un aristocrate, mais vous n'avez pas non plus l'air d'un fermier, d'un colporteur ou d'un patriote. » Vous ne ressemblez à personne qu'on ait pu voir ici depuis des années et des années. Vous ressemblez à...
J'ose à peine dire quoi. Vous pourriez être un prêtre. »
D'étonnement, Pérol resta comme pétrifié sur sa mule.
« Est-ce que je rêve ? »
se demanda-t-il mentalement.
« Vous n'êtes pas fou ? »
dit-il à haute voix.
« Est-ce que vous savez ce que vous dites ? Vous n'avez pas honte ? » ?»«
Tout de même, » insista l'autre innocemment. « Il y a bien moins de 10 ans que j'en ai vu un, de ceux qu'on appelle des évêques, et qui avait une figure exactement comme la vôtre. »
Pérol instinctivement se passa la main sur la figure. Qu'y avait-il de vrai là-dedans ? Il ne se souvenait pas d'avoir jamais vu un évêque. L'autre n'en démordait pas. Il fronça les sourcils et murmura.
« D'autres aussi, je me rappelle bien, il n'y a pas tant d'années. Il y en a qui se cachent encore dans les villages, malgré la chasse que leur ont donnée les patriotes. »
Le soleil étincelait sur les rochers, les pierres et les buissons dans le calme absolu de l'air. La mule, dédaignant avec une austérité républicaine le voisinage d'une écurie qu'on apercevait à moins de 100 mètres, la tête basse et même les oreilles pendantes, s'était endormie comme si elle eût été en plein désert. Le chien, qui paraissait changé en pierre près des talons de son maître, paraissait somnoler aussi, le nez contre terre. Pérol s'était abîmé dans une profonde méditation, et le pêcheur de la lagune attendait de voir se dissiper ses doutes sans impatience et avec une espèce de grand sourire caché dans sa barbe touffue. La figure de Pérol s'éclaira. Il avait trouvé la solution du problème, mais le ton de sa voix montra qu'il était un peu vexé.
« Ma foi, je n'y peux rien, » dit-il. « J'ai pris aux Anglais l'habitude de me raser. Je suppose que c'est à cause de ça. »
Au mot d'anglais, le pêcheur dressa l'oreille.
« On ne peut savoir où ils sont tous partis, » murmura-t-il. « Il y a encore 3 ans, ils fourmillaient le long de la côte sur leurs gros navires. On ne voyait qu'eux. Ils se battaient sur terre tout autour de Toulon. Et puis, en l'espace d'une semaine ou deux, crac, plus personne. Disparu, le diable sait tout. Mais peut-être que vous, vous le savez ?
Oh oui, dit Pérol, je sais tout sur les Anglais. Ne vous cassez pas la tête à ce sujet.
Je ne me fais pas de soucis pour ça. C'est à vous de savoir ce qu'il vaudra mieux dire quand vous parlerez avec lui là-haut, je veux dire le maître de la ferme.
Il ne peut pas être meilleur patriote que moi, malgré ma figure rasée, dit Pérol. Ça ne peut paraître étrange qu'à un sauvage comme vous. »
Poussant un soupir inattendu, l'homme s'assit au pied de la croix, et aussitôt son chien, s'éloignant un peu, alla se coucher en rond au milieu des touffes d'herbe.
« Nous sommes tous des sauvages par ici, » répondit le pitoyable pêcheur de la lagune. « Mais le maître là-haut, lui, c'est un vrai patriote de la ville. Si jamais vous allez à Toulon, et que vous interrogez les gens à son sujet, ils vous le diront. Il s'est d'abord occupé à pourvoir la guillotine quand on épurait la ville de tous les aristocrates. Ça, c'était avant même que les Anglais arrivent. Quand on a eu chassé les Anglais, il y a eu trop de travail de ce genre pour la guillotine. Il a fallu tuer les traîtres dans les rues, dans les caves, dans leurs lits. Il y avait des tas de cadavres d'hommes et de femmes le long des quais. Pas mal de gens comme lui, on les a appelés des buveurs de sang. Pour sûr, lui, c'était un des meilleurs. C'est moi qui vous le dis. »
Pérol hocha la tête.
« Ça fera très bien mon affaire, » dit-il.
Et avant qu'il eût rassemblé les rênes et lui eût donné du talon, la mule, comme si elle n'avait attendu que ses mots, s'engagea dans le sentier. Moins de 5 minutes après, Pérol mettait pied à terre devant un corps de bâtiment long et bas, attenant à une maison de ferme élevée, percée de quelques fenêtres seulement, et flanquée de murs de pierre qui clôturaient non seulement une cour, mais encore apparemment un ou deux champs. Une voûte d'entrée était ouverte à gauche, mais Pérol mit pied à terre devant la porte par laquelle il pénétra dans une salle dénudée, aux murs rugueux blanchis à la chaux, avec quelques tables et chaises de bois, et qui aurait pu être un café de campagne. Il frappa du poing sur une table. Une jeune femme avec un fichu autour du cou et une robe à rayures rouges et blanches, des cheveux très noirs et la bouche rouge, parut par un passage voûté à l'intérieur.
« Bonjour, citoyenne !»
dit Pérole. Elle parut si étonnée de l'aspect inaccoutumé de l'inconnu qu'elle murmura pour toute réponse « Bonjour !» Mais un moment après, elle s'avança et prit un air d'attente. L'ovale parfait de son visage, le teint de ses joues lisses et la blancheur de sa gorge arrachèrent au citoyen Pérole un léger sifflement entre ses dents serrées.
« J'ai soif, cela va sans dire, lui dit Pérole. Mais ce que je voudrais surtout savoir, c'est si je pourrais séjourner ici. »
Le bruit des sabots de la mule au dehors fit sursauter Pérole, mais la femme le retint. « Elle s'en va simplement dans la pantie. Elle connaît le chemin. Quant à ce que vous demandez, le maître sera ici dans un instant. Personne ne vient jamais ici. Combien de temps voudriez-vous séjourner ?» Le vieux flibustier la regarda attentivement.
« Pour vous dire la vérité, citoyenne, ça pourrait bien être en quelque sorte définitivement. »
Elle eut un sourire qui fit étinceler ses dents, sans que la moindre gaieté ni même un changement d'expression parût dans ses yeux agités, qui ne cessaient d'aller et de venir dans la pièce vide, comme si Pérole fût entrée suivie d'une foule de fantômes. « C'est comme moi, dit-elle. J'ai vécu ici quand j'étais enfant. »«
Vous êtes encore presque une enfant, »
dit Pérole en l'examinant avec un sentiment qui n'était plus de la surprise ou de la curiosité, mais qui semblait s'être logé au fin fond de sa poitrine. « Êtes-vous un patriote ? » demanda-t-elle en continuant à observer dans la pièce l'invisible compagnie. Pérole, qui pensait en avoir fini avec toutes ses fichues bêtises, eut un mouvement de colère et ne sut que répondre.
« Je suis français !»
dit-il brusquement. On entendit une voix de femme âgée qui, par la porte intérieure ouverte, appela
« Arlette !»«
Que veux-tu » répondit-elle avec empressement.
« Il y a une mule scellée qui est entrée dans la cour.
C'est bon, l'homme est ici. » Ses yeux qui s'étaient arrêtés recommencèrent à errer tout autour de la pièce et de Pérole lui-même, immobile. Elle fit un pas pour se rapprocher de lui et, à voix basse, sur un ton confidentiel, demanda « Avez-vous jamais porté une tête de femme au bout d'une pique ?» Pérole, qui avait vu des combats, des massacres sur terre et sur mer, des villes prises d'assaut par de sauvages guerriers qui avaient tué des hommes pour attaquer ou se défendre, fut d'abord frappé de mutisme par cette simple question, puis se sentit enclin à parler avec amertume.
« Non !» « J'ai entendu des hommes se vanter de l'avoir fait. C'était pour la plupart des hâbleurs au cœur de poltron. Mais qu'est-ce que tout cela peut bien vous faire ?»
Elle ne l'écoutait pas. Du bout de ses dents blanches, elle mordait sa lèvre inférieure et ses yeux ne cessaient d'aller et de venir. Pérole soudain se rappela le sans-culotte, le buveur de sang. Son mari. Était-ce possible ? Oui, c'était bien possible. Il n'en savait rien. Il eut le sentiment d'être d'une ignorance absolue. Quant à arrêter le regard de cette femme, autant aurait valu essayer d'attraper avec les mains un oiseau de mer sauvage. Elle avait d'ailleurs vraiment l'air d'un oiseau de mer, insaisissable. Mais Pérole avait appris à être patient, de cette patience qui est souvent une forme de courage. Il était connu pour cela. Cela l'avait servi plus d'une fois dans des situations dangereuses. Une fois même, cela lui avait carrément sauvé la vie. Rien que de la patience. Il pouvait bien attendre maintenant. Il attendit. Et soudain, comme si cette patience l'eût apprivoisée, cette étrange créature abaissa ses paupières, s'avança tout contre lui et se mit à tripoter le revers de sa veste, d'un geste qu'aurait pu faire un enfant. La surprise suffoqua presque Pérole, mais il demeura parfaitement immobile. Il était enclin à retenir sa respiration. Il ressentait une émotion douce et indéfinissable, et comme les paupières de la femme restaient baissées, au point que ses cils noirs étaient posés comme une ombre sur ses joues pâles, il n'eut même pas besoin de se contraindre à sourire. Le premier moment d'étonnement passé, il n'éprouva même plus de surprise. C'était ce que ce geste avait eu de soudain et non pas la nature de l'action même qui l'avait étonné. « Oui, vous pouvez séjourner ici. Je pense que nous serons bons amis. Je vous parlerai de la Révolution. » À ces mots, Pérolle, cet homme habitué aux actions violentes, sentit comme un souffle glacé lui passer sur la nuque.
« À quoi bon ? »
fit-il. « Il le faut, lui dit-elle. » Et s'écartant de lui promptement, sans lever les yeux, elle tourna les talons et disparut en un moment d'un pas si léger qu'on aurait dit que ses pieds n'avaient pas même touché le sol. Pérolle, les yeux fixés sur la porte de la cuisine, aperçut au bout d'un moment la tête d'une femme d'un certain âge, aux joues brunes et maigres, nouées dans un mouchoir multicolore, et qui le regardait craintivement.
« Une bouteille de vin, s'il vous plaît »
cria-t-il à cette tête.